c'était les poulpes. Alors ici Vonve. Bon, alors si je vous dis que je suis à nouveau là, mais en même temps, si je diffuse pas les deux poulpcasts à la suite, ça veut rien dire. Mais nous sommes dans une soirée d'enregistrement de module poulpcastique. Et après le mirifique module, n'est-ce pas Steve, sur la compétence trouve objet caché.
Il est truculent à la fois.
Qui nous a valu des problèmes avec un nombre de suicides grandissant après avoir parcouru TOC, parce que les gens se faisaient chier pendant un trois quarts d'heure. Nous avons un invité. Nous avons un invité ce soir qui ne savait pas qu'il allait participer, mais gentiment et poulpiquement, il est bienvenu. Donc tu es Prince Noir, c'est cela?
Tout à fait. Salut tout le monde.
Salut Prince Noir. Juste pour avoir une petite idée, tu furettes sur TOC depuis combien de temps à peu près maintenant?
Oh, ça fait plus d'un an, je dirais, à peu près.
Ah, t'es quand même assez récent sur le site.
J'étais un petit voleur de scénario, donc je venais m'inspirer, je piquais tout ce qui était sympa, aide de jeu, tout ça.
On n'est jamais voleur sur TOC, si on pique mes photos de vacances, mais sinon, au contraire, tu étais un bon utilisateur, tu venais chercher à la source ce qui t'intéressait. Ouais. D'accord, et puis, mais ton pseudo, t'as participé à des discussions ou des choses comme ça?
Non.
Non, du tout? Donc, à Lurker in the Lobby. Ouf, là, je suis chaud, ma soeur. Donc, Prince Noir est là, pas pour nous parler des origines de son pseudo et de comment il voit la communauté tokienne sans y participer, mais parce qu'il nous a remonté un sujet très intéressant, n'est-ce pas, Steve?
Oui.
Sans déconner, à force de balancer...
Voilà, c'est une espèce de sidekick. Hein,
oui, voilà, ça, c'est le même pet show sidekick, quoi. Et oui. Et oui, car Prince Noir... Car Prince Noir a une particularité, il a trois couilles. Non, absolument pas. Il joue à Delta Green.
Il joue
à Delta Green, mais... Il nous l'a dévoilé juste avant de commencer le podcast, et c'est assez intéressant, et vraiment, là, je suis tout à fait sérieux. C'est qu'il joue à Delta Green parce que, nous a dit le dit, et alors là, je dirais qu'il n'y a aucun jugement de valeur ou quoi que ce soit sur cette façon de faire, mais parce qu'il se... Alors tu me diras, après tu vas développer un peu, Prince Noir, mais parce que tu ne te sentais pas à l'aise dans les années 20, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Oui. J'étais pas satisfait, je veux dire, des premières parties que j'ai faites et de l'attitude à la fois de la mienne, hein, et en tant que gardien, et, ouais, et de mes joueurs.
D'accord, c'est-à-dire que finalement tu essayais de faire monter une sauce que toi tu trouvais qu'il prenait pas trop et finalement ouais, que tes joueurs n'acquéraient pas, quoi, ils rentraient pas dans l'ambiance années 20.
Tout à fait, tout à fait.
Ça se manifestait comment, tu dirais, pendant les parties, le fait que, enfin, c'est ces moments où tu sentais que finalement l'ambiance prenait pas, t'as des exemples de moments ou de choses qui faisaient que tu trouvais que ça prenait pas?
Bah, c'était surtout, je dirais, les briefings d'après-partie, quoi. Où là, je me rendais compte que je voyais pas trop de différence entre les parties d'autres jeux de rôle que j'avais fait juste avant, sur d'autres jeux. Et je me disais, pour un jeu qui avait un contexte différent, j'ai l'impression d'avoir eu le même résultat. Et ça me plaisait pas, quoi.
D'accord, quand tu faisais un débrief de parting, finalement, il y avait aucun aspect vraiment années 20, années voilà, folle, 20s, qui bon, ressortait.
Tout à fait, ouais. Que ce soit sur l'attitude des joueurs, leur vocabulaire, etc. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'effort assez fait, que ce soit de la mienne ou de la part des joueurs. Et ça ne me plaisait pas. Je trouvais que j'étais mécontent, quoi, de la partie.
D'accord. Qu'en penses-tu, toi, de ton côté, Steve?
Je trouve que c'est assez... c'est assez surprenant, mais ça me ramène directement à une question. Tu vois, moi, si je me suis senti si bien dans les années 20, c'était principalement parce que j'avais beaucoup de références... qui m'attirait de l'époque, et je parle en particulier de films, tu sais, Les Intouchables, le mythe d'Eliot Ness, d'Al Capone, tous ces films qui traitent de l'époque et qui me séduisaient, La Momie aussi, plus tard bien sûr. Et est-ce que toi, t'es réceptif à ce genre de film et à cette ambiance déjà?
Ah ben tout à fait, je dirais même que les premières parties, je les ai faites autour de l'ambiance de ces films-là justement. Les Affranchis, tout ça, Al Capone. Ah ouais, non, c'était très. C'est une inspiration que tu peux pas nier, quoi. Mais j'étais quand même, il y avait quand même des à côté qui me plaisaient pas.
Et en complément, tes joueurs aussi avaient ces références.
Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Ben, c'est plus facile, hein, pour fédérer au départ.
Ce qui te plaisait pas alors, c'était, si je reprends ce que tu disais tout à l'heure, c'est la sensation d'avoir quelque chose qui est pas vraiment original par rapport à d'autres jeux, c'est ça?
J'avais l'impression de faire les mêmes parties à nouveau que des autres jeux que je faisais juste avant. Je voyais pas la différence.
D'accord.
Et le côté, par exemple, tu sais, dans Toulouse, il y a certaines choses qu'on décrit comme étant assez différentes et assez marquées, différentes et marquées par rapport à d'autres jeux, comme par exemple la gestion de la santé mentale, ou tout l'aspect enquête.
Sur l'aspect technique,
t'es pas dépaysant ?
Ah si, si, tout à fait, sur l'aspect technique, c'est pour ça que ce jeu m'a toujours beaucoup plu. Là, j'ai été entièrement convaincu, quoi. Mais c'était juste sur le contexte, quoi, sur l'époque, quoi, que j'ai pas accroché.
Ce qui t'a fait finalement transiter vers une époque qui te convenait plus, c'est-à-dire notre époque.
Voilà, et pas uniquement pour moi, parce qu'apparemment je me suis aperçu que mes joueurs, ils étaient plus à l'aise également, ils avaient moins d'hésitation, ils avaient moins peur, ils se sentaient
en bien. Est-ce que pendant les parties années 20, ils te posaient souvent des questions sur mais est-ce qu'il y a des machines téléphoniques à l'époque?
Oui, ça arrêtait pas.
Alors voilà, c'est très intéressant parce que moi aussi, c'est vrai que ça m'est fréquemment arrivé de se dire.
T'es embêté quand t'as pas assez bossé quoi sur ce, quand te piège, quand t'attrape sur un côté, sur ce côté-là, là, t'es un peu perdu quoi au début, tu t'oses pas trop.
Alors par contre, moins que t'aies quelque chose à dire, Steve, mais je te rétorquerai. N'as-tu pas choisi la proie pour l'ombre? Je dirais même. N'as-tu pas tendu le bâton pour te tuer plus? Parce que à notre époque, autant à l'époque là-bas, tu maîtrisais, parce que si t'étais le gardien, tu disais ouais maintenant ça n'existe pas, mais me faites pas chier. Autant à notre époque, est-ce que t'es pas face à des difficultés quand ils essaient d'exploiter au maximum, je dirais, ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire nos sources d'information, comment tu gères cet afflux finalement de moyens qu'ils ont? Parce que pour être précis, tu ne joues pas dans les années originelles de Delta Green des années 90, mais à notre époque.
Voilà, maintenant. Ah ben, je te dirais que ça a été plus facile parce qu'à cause de mes propres passions et du fait que j'étais intéressé justement par les nouvelles technologies ou ce genre de choses. Donc, j'étais plus à l'aise pour maîtriser là-dedans, quoi. Et pour répondre aux joueurs.
Et alors, peut-être finalement, tu t'es retrouvé peut-être ce qui est plus intéressant pour un gardien. À mieux connaître les sujets auxquels seront confrontés tes joueurs que tes propres joueurs.
Tout à fait.
D'accord. Ouais, ça c'est très intéressant parce que ça peut tout à fait. Alors, au-delà de ça, est-ce qu'ils ont kiffé le côté conspirationniste et tout ça?
Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ils ont évidemment aimé ce côté-là parce que ça plaît à beaucoup de joueurs, ça.
Vas-y Steve.
C'est quelque chose que toi, enfin déjà, est-ce que tu joues en campagne ou est-ce que tu joues plutôt en échange?
Oui.
Alors les campagnes, c'est devenu plutôt difficile hein, pour revenir les mêmes joueurs sur plusieurs parties, donc c'était plutôt des one shot hein, sur la fin. C'était.
Et qu'il y avait des liens entre eux.
Je faisais l'effort moi de toujours créer un lien ou quelque chose qui pouvait être poursuivi par d'autres joueurs.
Et à l'heure actuelle, ils ont découvert Delta Green ou?
Oui, certains l'ont découvert. Ouais.
Mais certains, alors ça c'est intéressant. C'est-à-dire, tu joues depuis. T'as fait combien? Une petite dizaine de scénars avec eux ou des choses comme
ouf,
ça?
Une plus trentaine, facile.
Oh la vache! Il y en a qui sont encore dans le.
Oui, parce que j'étais déjà un fan dans les années, on va dire 90, j'étais un fan des jeux à composantes, on va dire claniques, c'est-à-dire les jeux où on force un petit peu les joueurs à se faire des crasses un petit peu les uns sur les autres, genre Vampire, Shadowrun, etc. D'accord. Donc j'ai toujours été un partisan de manipuler les joueurs, de leur donner une partie de background. Et ça, c'est un régal, quoi, quand tu aimes faire ça.
Et là, tu maintiens encore des joueurs, après une trentaine de scénars, dans l'ignorance de ce pourquoi ils travaillent encore et tout ça.
Ben, en fait, j'ai respecté les conseils qu'on lit dans les manuels et qui te disent de jamais... donner les noms, que ce soit pour les créatures, les descriptions, donc je fais pareil pour les organisations, quoi. Jamais je leur ai dit je veux faire une partie de Delta Green, quoi, tu vois, ce genre de choses. Il y a des choses que je garde cachées, quoi.
Ah putain, c'est pas mal ça. Parce que après autant de temps, c'est. Et alors pour. J'espère qu'ils écouteront pas et que tu vas pas parler des prochains scénarios que tu vas leur faire, mais par exemple, tes intrigues, quelques intrigues classiques autour desquelles tu les as fait tourner. Ce que je veux dire, c'est que, comme demandait Steve, pardon, est-ce que c'est finalement plein de petites enquêtes autour d'une société ou d'un truc qui va les amener là-bas, ou est-ce que c'est plein de one-shot, et dans ces cas-là, t'as des types d'intrigues un peu particuliers, genre un crash d'avion à étudier... excuse-moi, je suis bordélique dans ma tête. Déjà, tu joues aux US ou en France?
Dans le monde. Je fais
globalement, d'accord. Donc, globalement. Okay. Donc je reviens sur mon idée. Est-ce que t'as des des scénar types ou comment tu gères justement ces parties qui sont censées suivre en one shot?
Déjà, c'est en fonction de. Je regarde le type de joueur, si c'est les joueurs qui vont faire juste une partie occasionnelle ou pas. Donc ce sera pas la même accroche. Soit j'essaye de les mettre dans une espèce de pseudo-campagne, donc là on en revient au classique, agent fédéral, etc., service secret. Soit alors j'essaye de faire une accroche basique, hein, pas très originale, mais toujours pareil, hein, sur avec
un papier dans le journal,
l'oncle décédé, l'héritage, des trucs comme ça, pour faire dériver sur autre chose. Mais moi j'utilise une particularité, c'est-à-dire que j'ai pas envie de. J'essaye de pousser mes joueurs dans leur dernier retranchement. Alors, je leur fais pas jouer des gentils, on va dire. C'est plutôt des bad guys, quoi. C'est plutôt des. Voilà. Des mafieux, des gangsters, ce genre de choses.
Ah, ils sont pas. C'est pas des mecs d'agence, alors.
Voilà. Ou c'est des infiltrés, ou c'est des choses comme ça. Mais il y a toujours.
Ce qui fait que t'as toujours le moyen de leur foutre des bâtons dans les roues de façon.
Tout à fait.
Justifiée, voilà. Parce que, avec leur passé, leur rattrape, quoi.
Voilà.
D'accord. Et tu joues avec. Parce que tu dis, tu joues avec combien de joueurs et ça te fait à peu près tourner, d'équipe en équipe à chaque scénar ou.
Alors j'ai 4 joueurs réguliers, mais on va dire que je tourne autour de 10, quoi. 9-10. Voilà.
D'accord. Il y a 4 joueurs qui restent le cœur du truc et qui font tout. Et justement, si tu n'utilises pas les agences forcément complètement, comment tu les fais, se fédérer scénario après scénario? Qu'est-ce qui les lie?
Alors moi en fait c'est que je suis parti sur une partie du, enfin j'ai utilisé une partie du background de Delta Green, je suis parti sur les méchants quoi, si tu veux Majestic quoi. Voilà, je suis
d'accord.
Parti
spoiler,
sur
spoiler, 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 attention vous chiez-vous les oreilles. Non c'est bon, d'accord.
En fait, je leur fais jouer quoi une, je les fais, en gros je leur donne le rôle des sbires des méchants quoi, voilà, ils sont là pour faire les saloperies des méchants.
Ah putain.
C'est une posture qui est vachement intéressante.
Ah, ils sont les hommes de main des méchants.
Voilà.
Ah putain, c'est excellent. Ah, mais c'est très bon parce que franchement, c'est.
Et en plus, tu sais quoi, je me régale parce qu'à chaque fois que je vais prendre piocher scénario sur Internet ou sur Tok, tout ça, je me régale parce que des fois, je trouve des opportunités sur le rôle des méchants, quoi. Des fois, je lis le scénario, je dis ouais, bof, la part des gentils, c'est pas très. C'est un peu passif, quoi. Alors que le méchant, lui, il s'éclate un peu, quoi.
Et puis finalement, dans un scénar, ce qu'on décrit le plus, c'est ce que va faire le méchant, donc t'as vachement de données dessus, finalement.
Ouais,
si
ouais.
Le truc est bien décrit, tu vas avoir tout le plan du salopard, quoi.
Voilà.
Ah, d'accord. Et, ah, d'accord, putain, ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que ça peut être un proche qui fait, et c'est ce que tu disais, Steve, au moment où il est arrivé, Prince Noir, c'est de se dire. Il y a toujours des trucs qu'on a du mal à mettre en scène dans les années 20. Ou non, c'est toi qui disais ça, Prince Noir. Les femmes, le racisme.
Oui, ouais, tout ça, tout à fait. Ouais. Je suis très... D'ailleurs, je laisse pas mes joueurs, les copains, quoi, je les laisse pas jouer des rôles de femmes. Quoi, parce que j'ai essayé, ça a été catastrophique, et ça, je veux plus voir ça. Ouais. Quoi, c'est...
Et tu t'es jamais fait avoir par la technologie? Ils ont jamais essayé. Bah non, c'est vrai que tu leur donnes pas forcément de gros moyens, quoi.
C'est le prix de triangulation.
Ouais, parce que c'est vrai que les mecs, quand ils jouent dans les agences, le mec, ok, je veux un satellite sur ma position dans H-5 secondes, tu sais.
Voilà. Puis après, t'as toujours les trucs de base des scénarios hollywoodiens, tu sais, la panne technique, le côté fantastique, l'intervention surnaturelle, voilà, tu t'en sors comme tu peux, quoi.
Je sais pas, est-ce que t'as une culture de séries ou de jeux vidéo, de choses comme ça, un peu?
Plus de policiers, on va dire.
D'accord. C'est juste pour avoir. Si tu devais donner un thème à tes parties, ça se rapproche de.
Ouh là là. Alors sur un thème, ce serait dur de.
Je veux dire, tu vois, par exemple, moi, mes parties, c'est. Je pourrais dire, c'est souvent Indiana Jones quand même. C'est un mélange de Indiana Jones et d'un bon gros film d'horreur, quoi.
Alors je peux pas affirmer que c'est tout le temps du pulp ou du truc, parce qu'en fait j'ai des joueurs qui sont vraiment différents, quoi. J'en ai qui adorent l'action, qui aiment que ça bouge, etc. J'en ai d'autres, j'ai des joueuses notamment qui adorent les enquêtes, faire les experts médicaux légaux, tout ça. Enfin, donc c'est pas je mélange, j'essaye de faire plaisir à tout le monde.
Bon, ce qui veut dire que tu peux avoir des films d'action comme tu peux avoir des épisodes de séries à la Les Experts à Miami ou des trucs comme ça, quoi.
Voilà, et en fait, quand je construis le scénario, je pense toujours à mes joueurs, je me dis ça va faire plaisir à tel joueur, ça va faire plaisir à tel joueur, et j'essaye de mettre un peu tout, quoi.
Ah, yes.
Ouais, au niveau de la trame temporelle, vous jouez, le dernier scénario que tu as fait jouer, c'était à quelle date?
C'était l'an dernier.
Donc tu as joué en 2012?
Voilà.
C'est-à-dire que ta question, Steve, c'est dans le jeu ou au niveau du monde réel?
Non, non, alors attends, je vais reformuler. dans le jeu Delta Green, voilà. Les personnages évoluent
à quelle époque,
ouais. à quelle année? Dans quelle année?
À l'époque actuelle, ils évoluent.
Et quand tu dis époque, est-ce que tu colles, tu sais, parce que quand tu commences, par exemple, un scénario de Delta Green, tu peux commencer, je sais pas, le 1er janvier, tu vas faire ta partie suivante un mois plus tard et tu vas te retrouver le 2 janvier. Donc tu prends du retard par rapport au déroulement du temps des gardiens et des joueurs. Est-ce que tes scénarios rattrapent le fil du temps? Par exemple, est-ce que ton prochain scénario va se passer en octobre 2013? Ou bien est-ce que vous continuez avec un petit peu de retard en 2012, par exemple?
Non, je m'autorise toujours quelques mois de retard, donc ça, c'est pas un souci. Et même parfois, je tente, ce qui est un peu casse-gueule, de faire des scénarios un peu flashback. Mais ça, je le fais que très rarement. Ça.
Donc, maintenant, je vais à une autre question. Est-ce que pour toi l'actualité est un ressort de jeu ou est-ce que c'est
voilà,
juste...
Oui, je l'attendais celle-là. Oui, tout à fait.
Il est en embuscade, le Steve.
Je m'y inspire.
Tu t'inspires, d'accord.
Tout à fait, oui. Oui, je m'inspire de l'actualité, quoi. D'ailleurs, je rebondis sur n'importe quelle catastrophe naturelle.
Ça, et tes sources, c'est quoi? C'est les sites d'information classiques?
Oui, tout à fait, oui, les infos, hein, tout simplement.
Mais c'est pas dans le journal de 20h de Claire Chazal qu'on va entendre.
Ouais, le net.
Des wormholes, ouais, c'est ça. Donc sur le net, il y a des endroits en particulier où tu vas?
Ouais,
sur,
c'est intéressant.
Sur WikiStrike ou consort?
Non, pas particulièrement. Mais on va dire que en général, je vais regarder, par exemple, une plateforme pétrolière qui a explosé ou qui aurait fait des dégâts, et puis à partir de là je vais m'intéresser à la région et là je vais rechercher tout ce qui s'est passé dans cette époque là dans le coin, et puis je vais essayer de faire des liens avec des intrigues politiques. Donc c'est une catastrophe qui va m'attirer dans un coin du monde, et là je vais faire mes recherches sur net.
D'accord, donc
je commence à comprendre un peu ce qui te manquait dans les années 20, parce que je pense que cette profondeur existait, mais que les bouquins et les suppléments ne s'attachent pas du tout à décrire quel était l'état de l'actualité, des complots, voilà. Parce qu'il y en avait, il y avait des complots à l'époque.
Oui, oui.
Comme il en a toujours existé, c'est pas parce que le mot complotiste existe que les complots n'existent pas. On dirait Kurt Cobain dans une autre manière, mais c'est vrai que cette profondeur-là, cette espèce de baignoire d'inspiration, on l'a moins. Et aujourd'hui, même si si elle était moins fournie par un jeu de rôle, sur une époque contemporaine, il suffit d'ouvrir son navigateur ou un journal pour avoir 10 000 choses sur lesquelles rebondir, non?
C'est très bien résumé, c'est tout à fait ça.
Tout ça, vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Au niveau politique, justement, est-ce que... toi, en tant que MJ, tu sers quand même un reflet de ce que tu estimes être la réalité. Est-ce que tu as déjà eu des débats ou des problématiques avec tes autres joueurs sur ton approche? Exemple, le 11 septembre, par exemple.
Non, j'ai pas eu vraiment des problèmes. Des débats, oui, mais des problèmes, non. En général, si les joueurs ont un souci, ils m'en parlent plutôt entre deux parties, quoi, après la partie. Mais pendant la partie, non, rarement.
Quand je dis problème, tu sais, c'est pas réellement un truc inacceptable qui se passe pendant la partie, mais plutôt...
L'interprétation d'un fait d'actualité, quoi.
Voilà. Est-ce que tu as des joueurs qui t'ont déjà dit, ouais, mais par exemple, là, tu nous dis que, je sais pas, la vie dans le lac souterrain au Groenland, c'est une vie extraterrestre. Or, dans l'actualité, ils ont dit que c'était probablement des toutes petites bactéries qui existaient, qui ont été capturées depuis des...
Non, parce que je me sers, c'est un peu basique, mais comme le Deus Ex Machina, je fais... En gros, je me sers du thème basique de la conspiration, comme quoi tout est caché, etc., que c'est facile de mentir. On peut noyer les gens sous des flots d'informations, de désinformations.
Et finalement, le fond de ta trame, je dirais, ce qui lie les scénarios, c'est quoi? C'est que Ils sont finalement employés pour faire disparaître des choses, des gens
Voilà.
qui tournent autour de faits qui sont toujours un peu, pas X-Falia, mais un peu quoi, un peu en dehors du réel, c'est ça?
Oui, d'ailleurs, je ne nie pas l'inspiration, hein, ça part X-Files a évidemment marqué, hein, donc forcément ça laisse des traces. Hein. Oui, tout à fait, au départ
D'accord.
c'est des trames basiques comme faire disparaître ou essayer de décrédibiliser quelqu'un par exemple, qui essaye de faire éclater la vérité, etc. Donc on a des
C'est
missions
bon ça.
un peu plus subtiles, politiques ou de la simple corruption. Et en fait, en gros, j'essaye de leur apprendre, entre guillemets, hein, apprendre qu'il y a toute une palette d'actions avant d'arriver justement à l'action pure et dure, le meurtre, l'assassinat.
Oui, tout à fait. Il y a des sortes d'assassinats politiques ou d'assassinats de réputation.
Voilà.
Les gens s'écroulent sans avoir besoin de leur
C'est des
perdre.
super
Voilà.
idées, ça.
Et est-ce que, enfin, tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de jouer à des jeux vidéo dans lesquels on peut interpréter le bad guy. Mais je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, au fil des parties, je me sentais un peu mal à jouer systématiquement mauvais ou des choses qui étaient répréhensibles. Est-ce que tu as senti quelque chose de la part de tes joueurs à toujours faire les sales coups, les sales missions, des trucs un peu chelous?
Alors oui, effectivement, j'ai des joueurs qui ça ne plaisait pas au départ. Mais en général, c'était des joueurs qui avaient, je dirais, comme des tabous. C'est peut-être pas le mot à employer, mais
Ouais.
qui avaient quelque chose de. Ils le vivaient mal, quoi. Ils se disaient non, je peux pas faire un personnage comme ça, quand même, c'est aller trop loin, etc. Et là, mon rôle à moi, ça a été de leur expliquer qu'il y a toute une psychologie chez le méchant. Il y a différents types de méchants. On n'est pas obligé de jouer un espèce de tueur sociopathe ou un serial killer qui dépece les enfants, etc. On n'est pas obligé d'aller dans des choses très graves, mais je leur ai juste montré qu'en fait, le terme de héros est un peu galvaudé, et que c'est parfois un peu plus intéressant de voir qu'on peut être un égoïste, tout simplement, chercher ses propres intérêts.
Ce qui est très intéressant, c'est que ton univers, finalement, l'univers de la paléontologie des années 20, l'univers standard est très noir et blanc. C'est-à-dire que t'es dans le bien ou t'es dans le mal, quoi. Tu lis un ouvrage, t'es dans le mal. Tu lis pas l'ouvrage, tu le cultives, t'es dans le bien. Toi, le tien, c'est vraiment très en nuance, quoi.
Tout
Finalement,
à fait.
tu fais le mal, mais pour peut-être éviter un mal
Alors,
plus
peut-être qu'on peut le
grand.
faire dans les années 20, mais que moi j'ai pas su, hein. C'est peut-être ça, hein.
Il y a
Quand
toute
tu
sa
regardes.
profondeur qui est difficile, qui met beaucoup beaucoup de temps à appréhender. Et encore, sur du contemporain, tu peux faire appel à une culture générale de tes joueurs. Alors que qui a une culture générale de l'actualité des années 20? Si tu leur expliques pas.
Alors ça c'est vrai ça, ouais. Ça c'est vrai que c'est un gros problème. Moi c'est ce qui a été vraiment ce qui m'a freiné quoi. C'est je me suis senti vraiment.
Veux dire que finalement tu peux. Enfin. Tu peux pas rebondir sur des faits d'actualité d'époque ou s'ils doivent faire chanter un type ou quoi que ce soit, finalement tu n'auras pas forcément le réflexe, tu sais pas comment marche la société complètement à cette époque-là, donc tu vas dire que pour faire tomber, je sais pas, un avoué ou un politicien, comment tu vas quoi tu vas attaquer à l'époque parce que t'as pas tu peux pas faire de la désinformation à Twitter, à Facebook ou alors aller faire de la surveillance PI avec le méga zoom et puis enfin, écouter ses conversations et tout, c'est vrai que c'est vachement ça approche, je trouve.
Bon, juste avant de continuer, je vais te dire que ton micro il plante sévère, qui balance pas mal de parasites.
Ah oui, mais alors ça va plus me passer.
Ouais. Après, je vais
Ah
juste
quoi, il vient
poser
me
une
le dire.
question, est-ce qu'il y a une rémission possible pour tes joueurs? Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment ils plaquent tout ou qu'ils s'orientent
Alors,
vers
je
le
dirais,
bien entre guillemets?
c'est même une trame principale pour certains de mes joueurs, parce que j'ai des joueurs qui sont des profonds, je dirais, samouraïs, qui ont un code d'honneur très fort, etc. Et donc ces joueurs-là, je m'évertue à justement les pousser jusqu'au bout pour qu'ils en viennent à trahir leur employeur, quoi. Donc changer de camp.
Il y a vraiment, il y a quelque chose de très psychologique et philosophique. C'est
Ah mais
vachement intéressant.
c'est une très bonne intérêt. Je trouve que c'est une super intéressante exploitation de Delta Green parce que il est vrai que Delta Green maintenant quand on le prend à notre époque, vu que c'est un truc qui est fait pour les années 90 et que la mise à jour elle n'a pas été tip top, et que finalement tu peux pas faire enfin tu donnes les règles du jeu, mais tu peux pas faire un jeu avec tout ce qui se passe à notre époque, parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent que tu peux pas traiter de tous les faits d'actualité dans des suppléments ou des choses comme ça. Donc enfin, c'est pour ça, moi, si j'avais à rejouer à Delta Green, je pense que je partirais sur ton principe, pas ton principe de bad guy, mais, ou peut-être, hein, mais le principe de jouer à notre époque, pile poil, Et finalement de jouer dans un monde où bah, tous les codes sont connus, des choses comme ça, ou qu'il n'y ait pas de décalage avec une époque, surtout dans
C'est
les années
surtout
90.
l'idée principale, si tu veux, c'est de surtout éviter l'écueil, le côté, on va dire, bipolaire, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Il faut que ce soit beaucoup plus nuancé, quoi.
Ouais. Ah ben c'est vachement intéressant ça. Et comme on parlait de règles il n'y a pas si longtemps que ça dans un autre podcast, tu utilises les règles standards?
Alors, j'ai des joueurs qui ont été un petit peu réfractaires au dessin, donc j'ai été obligé de faire des essais avec d'autres dés, donc ça n'a pas été évident. Là, j'ai eu du mal, hein, parce que les systèmes de résolution, là, j'ai un peu tout testé, quoi.
Ouais.
Et ça n'a pas été, parce que si tu veux, avec le dessin, j'avais un gros problème, c'était que j'avais des joueurs qui voulaient se sentir puissants. Et
Ouais.
si t'as que des caracs à 40%, quoi, ça devient vite
C'est mort.
catastrophique. Voilà, c'est mort, quoi. Donc il me fallait. J'ai voulu changer de dé, je suis passé sur le D20. Alors après j'ai pris un système beaucoup plus simple que je voulais pas refaire un donjon, donc je voulais quelque chose de une résolution rapide avec un seul coup de dé. Je voulais éviter la brouette de dé ou le dé trop ample. Donc
D'accord.
j'ai fait des tests, quoi.
Et donc là, t'es sur un système comment à base de compétences avec un D20, tu...
Voilà, compétence D20. Mais ce
D'accord.
qu'il y a,
Donc...
c'est que je prends en compte, comme justement j'écoute beaucoup les podcasts, etc., et que j'ai piqué les idées qui me plaisaient. Donc j'ai voulu réconcilier, parce que j'ai vraiment des joueurs qui sont très très différents. J'en ai qui adorent les dés, d'autres qui les détestent. Donc il a fallu réconcilier un peu tous ces joueurs. Donc j'ai été quelque part un peu obligé à créer un système de résolution qui réconcilie, enfin j'ai essayé, un
Ouais.
maximum de joueurs. Donc j'ai coupé la poire en deux entre faire la brouette de dés et pas de dés, entre l'argumentation à outrance. Donc là c'est encore un autre sujet. Donc il a fallu que je fasse plaisir à tout le monde, ceux qui voulaient s'investir dans leur rôle, ceux qui voulaient de l'action, ceux qui voulaient du pulp, ceux qui voulaient de l'enquête.
Et par exemple, pour on en parlait tout à l'heure avec Steve, pour les résolutions, par exemple, de choses, de recherche ou de choses comme ça, tu fais jeter des dés ou alors c'est en fonction de ce que disent tes joueurs que tu leur donnes les indices qui correspondent?
Alors déjà, moi, j'estime que le dé ne doit intervenir que pour un acte qui est vraiment, je dirais, critique ou important. C'est-à-dire, je vois pas l'intérêt de faire jeter un dé si le personnage est tranquille, il est à l'aise, il a du temps, il a des ressources devant lui.
Il
Donc
maîtrise, ouais,
voilà, il
d'accord.
maîtrise, donc il va réussir. Maintenant, il fait la même chose avec un pistolet pointé sur ta tempe ou s'il y a des vies en jeu. Là, ce sera autre chose. Là, oui, là, je veux bien un jet de dé.
D'accord. Ouais, donc
Et
c'est
tout à
intéressant.
l'heure, tu disais tout à l'heure qu'il y a des personnages qui avaient envie de se sentir puissants. Est-ce que c'est le cas pour les combats et est-ce que tu dirais que ton système est héroïque?
Alors, mon système, il est surtout un peu vicieux parce en fait, j'apprends, là encore, hein, j'essaye d'apprendre aux joueurs qu'il faut d'abord analyser l'adversaire et savoir à qui tu as affaire. Tu peux pas réagir de la même manière face à un petit truand, une petite frappe et face à une créature du surnaturel, quoi. Donc, effectivement, ils sont puissants. Quand ils ont de l'expérience, ils sont puissants face à des adversaires humains, je dirais. Mais face au surnaturel, tu seras toujours pris de court et tu seras toujours, ce sera toujours, on va dire, tendancieux, quoi. Tu seras toujours au bord de la catastrophe, de la mort.
Ouais, tu seras pas en terrain connu et tout ça, ce qui fait
Voilà.
que finalement, d'accord, donc la difficulté finalement c'est le dosage de ils sont puissants face aux humains, mais il faut pas non plus que ça parte complètement en cacahuète.
Voilà.
Je sais plus si tu as posé la question, si, mais comment tu maîtrises, je dirais, leur puissance de bad guy, c'est-à-dire que s'ils sont super forts, s'il y en a un, c'est un roi du flingue et tout, comment tu gères le fait que si vraiment ils voulaient un tantinet s'organiser, ils arrivent à choper le type en deux temps trois mouvements et parce qu'il y en a un qui le met sur écoute, l'autre qui débarque avec un flingue à silencieux et un autre qui ouvre les portes comme pas deux. Comment tu gères, je dirais, leur puissance, quoi?
Ah ben là, c'est moi qui me retrouve en difficulté parce qu'en général, je refuse de les empêcher d'y parvenir. Je trouve que moi, j'écoute mes joueurs et quand je trouve qu'ils se sont bien débrouillés, je leur accorde la victoire, quoi, quelque part.
Pareil,
Donc,
quand tu fais ah la
après,
vache, les
c'est moi qui
salauds!
suis dans la mouise pour essayer de rattraper, improviser, mais c'est à la
Ah,
limite,
c'est ça,
j'assume,
d'accord,
quoi,
ça
ça ne me dérange
ah
pas.
ouais.
Ah, ben c'est vachement.
Est-ce que dans ton monde, on peut mourir d'une balle? Une balle de
Oui,
revolver,
tout
par
à
exemple.
fait. Ça, j'y tiens parce que je
Et des
refuse.
personnages
Hein.
aussi.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Ok.
Donc, parce que je refuse que ça devienne, genre, t'es niveau 10, tu peux encaisser 35 coups d'épée, quoi. C'est...
Ouais. Et alors, ça, c'est intéressant, ça, Steve. Et est-ce que le pendant, c'est-à-dire que comme ils sont puissants, est-ce que par moment, tu fais une double gestion, c'est-à-dire, t'as le, je dirais, la piétaille de base contre laquelle ils vont même pas faire de G parce qu'ils vont les éliminer sans aucun souci. Et par contre, le vrai bad guy où là, tu fais un G. Est-ce que t'as deux échelles de PNJ différents?
Oui, tout à fait. Et là, par contre, là, s'ils écoutent, ils vont découvrir un truc, c'est que en fait, je fais semblant de, enfin, je jette les dés, mais je fais semblant d'y tenir compte pour la piétaille, quoi. C'est,
d'accord.
Pour que le joueur se sente, c'est la frénésie, quoi. Tu vois, je fais une action, je me sens fort.
Voilà. Et donc, ça défouraille à tout va, mais même s'ils ont raté ou pas, ou quoi que ce soit, c'est d'accord.
En fait, ton ambiance, enfin, disons les thèmes de ton jeu me rappelle vachement les romans noirs, et en particulier Sin City.
Oui, c'est pas faux. C'est pas faux.
Sans être des héros, les personnages sont vraiment des viandeurs. Mm-hmm. Ils risquent la mort, mais en même temps, ils font de grandes choses, et le monde autour d'eux est plutôt sombre et inquiétant. Bah. La thématique noire, c'est quelque chose qui te parle, toi ?
Oui, tout à fait. Hein. C'est exactement ce qui m'a inspiré au départ. Hein.
C'est vrai que moi aussi, ça me fait penser un peu à, je sais pas si vous connaissez la série The Shield.
Ah oui.
Voilà, bah exactement, ça me fait penser à ça, c'est que finalement, les mecs,
ils sont
surpuissants, enfin, ils ont accès à tout, parce qu'ils ont accès aux méchants, aux gentils, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Et d'un côté, ils sont confrontés, à des dilemmes moraux, à, est-ce que, jusqu'où on peut aller trop loin et tout ça, et c'est vrai que c'est assez intéressant comme thématique, et puis ça change vraiment du noir et blanc, mon dieu. Ouais. Ça me donne à moitié envie de rejouer Delta Green, c'est ton affaire.
Ouais, merde. Moi aussi, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont tous les jours, est-ce qu'ils sortent les poubelles, est-ce qu'ils ont des voisins chiants et une extrême
Alors, je dirais non seulement ils en ont une, mais c'est primordial, parce que c'est un moyen de pression sur certains de mes joueurs. Parce qu'il y a des joueurs, si j'ai pas de moyen de pression sur eux, ils pourraient me foutre le scénar en l'air, quoi. Donc, heureusement qu'ils ont une vie, ils ont des femmes, des enfants, des moyens de pression, quoi. Des PNJ qui sont importants pour eux.
Donc ils jouent bien quand même, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte c'est quand même des bons joueurs, parce qu'ils prennent en compte cette partie-là en se disant, on a beau être surpuissant, on a des choses auxquelles on tient et qui vont nous réfréner.
Non, si tu veux, au départ, à la création de leur perso, j'attache beaucoup d'importance à pourquoi ils ont fini par travailler pour ces gens-là. Et c'est quand tu travailles ce motif-là, effectivement, tu finis par créer dans leur background des éléments que tu peux retourner contre eux. Il y en a certains, c'est pour avoir une société, pour avoir de l'argent, pour devenir célèbre, etc. Donc c'est des choses que tu peux après, tu peux t'en servir contre eux, quoi. Pour les calmer ou les brider, hein, pas les détruire. Hein.
Ouais, mais c'est super. En plus, ça te fait des super idées de lancement de scénar, ça. Ça te fait une potentialité de lancement de scénar carrément énorme, quoi. Parce que sur une équipe de 4 personnes, t'en as forcément un qui a eu un souci dans son passé ou qui, pour arriver à ce qu'il veut, est prêt à tout ou quoi que ce soit, ou il y a une opportunité qu'il attendait depuis un moment et hop, qui vient de s'ouvrir. Ah la vache, ouais. Et tiens, une petite question comme ça, quel scénar sur TOC ton particulièrement soit plus, soit donné des idées ou des choses comme ça, si tu en as en tête. Il y en a un que t'as en tête comme ça quoi.
Oh oui, il y en a plein. Alors là, comme ça, là tu me prends de court. Il y en a un qui m'avait bien marqué parce que j'adore la couleur tombée du ciel. Et c'était une espèce de The Thing, un petit peu, hein, où une base scientifique est créée pour étudier la larve. Et évidemment, ça tourne mal et l'équipe est massacrée. Et la survivante devient folle et elle décide enfin elle pense que si elle sacrifie d'autres personnes, elle va s'en tirer, donc elle appelle les secours, et les secours c'est les PJ. Et là j'avoue que ce scénario m'avait inspiré pour faire jouer justement le côté des méchants, quoi. Ouais.
C'est bon ça. Ah, peut-être j'arrive pas à me rappeler de quel scénar c'est, mais je joue un peu l'idée.
De tête non plus, je me rappelle pas le nom.
C'est pas Projet Farren, non, c'est pas ça. Non, c'est plus. D'accord. Et sinon, tu pioches d'autres choses sur TOC, directement.
Voilà, dès que je vois, alors en général, c'est rare que tout le scénario me plaise, mais je prends des idées, ou dès que je le vois, quand je lis le scénario, je m'arrête et je fais, ça c'est génial, ça c'est vicieux, ça on peut faire plein de choses avec, voilà.
Ça c'est moche, je vais m'en servir, c'est beau.
Voilà, ouais.
Et par contre, côté bibliothèque, tu reposes sur quoi? T'as quoi comme publication de l'appel ou de Delta Green?
Alors déjà j'avais tout depuis le j'avais les règles de base, j'avais évidemment le QTU 90, donc tout le monde dit beaucoup de mal, c'est vrai, mais j'ai envie de dire pour le défendre ce pauvre livre que s'il n'y avait pas eu 90, il n'y aurait pas eu Delta Green après.
Exactement.
Quoi.
Voilà. C'est pas faux.
Donc j'ai Delta Green, voilà. J'ai... Après je m'inspire aussi d'autres jeux qui m'ont plu sur à peu près le même contexte contemporain, c'est-à-dire que il y avait quoi, il y a eu Conspiration aussi qui était pas mal, Conspiration X, tout ça pour les thèmes, hein, voilà.
D'accord. Et t'as été voir, enfin à l'heure actuelle, il y a des alternatives genre Trail of Cthulhu, alors des choses comme ça. T'as été voir de ce côté-là?
Non,
ou...
non, j'ai pas vu.
Pour avoir d'autres systèmes qui pourraient être plus actuels, d'accord. Non, mais c'est intéressant de se dire que finalement, finalement, là, maintenant, avec la base sur laquelle tu joues, et c'est plus les années 20, finalement, tu t'as que quelques sourcebooks, quoi. T'as Eyes Only ou des trucs comme ça ou.
Oui, tout à fait, oui. Ou bourré d'informations, c'est
voilà.
Bon.
Ouais. D'accord. Bon, bah, c'est super, ça. Ah non, c'est un super podcast qu'on fait là. Mmh. En réalité, quand on est tous les deux avec Steve, c'était tout moisi. Là, c'est vachement intéressant.
Si c'était si moisi, on vous écouterait pas si souvent.
Non, ouais. Ah, tu t'as pas encore écouté celui qu'on a fait quand même. Non, il est pas moisi, mais disons
on
que le sujet.
Pas,
le sujet était pas sûr. Non, mais c'est très intéressant. Je sais pas, est-ce que t'as. Parce que là, on est sur un petit module de 30 tournées à 36 minutes, donc on va pas tarder à arrêter. Est-ce que t'as d'autres choses à ajouter ou. Est-ce que t'as des trucs à. Excuse-moi, je t'ai coupé.
Oui, il y a juste un truc que vous m'avez pas demandé. En général, on me le demande assez souvent. On me dit, la mort, tu la gères comment, etc.
Et la mort, tu la gères comment ?
J'avais la question tout à l'heure, effectivement.
Eh bien, en fait, moi, c'est que... Parce que tout part de ma façon que j'ai, moi, déjà de jouer, quand je suis avec un autre MJ, un autre gardien. Le premier truc que je fais, c'est je demande, tu gères comment la mort ? Et si je sens que le type, il a une réponse un peu bateau, qu'il a pas trop prévu... En général, il y a de fortes chances pour que je devienne un joueur pénible à la table. Comme moi, j'ai pas envie d'avoir des joueurs pénibles. Moi, de suite, quand j'ai créé les règles, j'ai créé un système, si tu veux, qui fait que ils ont des sbires à leur ordre, les espèces de men in black, si tu veux, des hommes en noir qui ont des caractères bidons. Mm-hmm. Et si jamais ils perdent leur personnage, eh bien, ils incarnent à leur tour ces personnages un peu bidons, quoi, avec des caractères vraiment catastrophiques, quoi. Et c'est une manière de leur permettre de continuer à jouer. Comme ça, moi, j'ai pas peur de leur faire subir la mort. Et de leur côté, quand ils prennent le nouveau personnage et qu'ils font, oh putain, ouais, non, là, j'ai combien? J'ai même pas une chance sur deux de réussir. Ouais, il était bien, mon perso, finalement. Et finalement, ça leur apprend à avoir peur un petit peu.
Tu les laisses finir le scénar avec un bitos, quoi.
Voilà, exactement.
Ça rappelle les sanctions dans une dominée satanis.
Exactement.
Où on jouait les familiers bidés ou des
trucs. Exactement.
mais c'est une très très bonne idée dont on parle pas forcément souvent parce qu'on l'a pas forcément en tête et je trouve que c'est une très bonne idée d'option par rapport à la mort de jouer le crétin homme de main, enfin le porte-flingue, quoi. Et ça se passe jusqu'à la fin du scénar et après le scénar suivant il recrée.
Et évidemment, voilà.
D'accord.
Et en général, parce que je marche toujours avec la carotte et le bâton, hein, pour les joueurs, hein, ils sont un peu basiques, ces salopards. Donc, je leur donne toujours une motivation. C'est-à-dire, s'ils jouent bien leur rôle, quoi, je leur donne des caracs en plus, ou, tu vois, des bonus pour leur prochain personnage.
Ils sont
d'accord.
Ouais.
une question. Est-ce que dans ton groupe, il y a des personnages, bien les personnages, qui sont croyants? D'une religion ou d'une autre.
Oui. J'en ai un. D'ailleurs, j'ai un de mes joueurs. C'est récurrent chez lui, quoi. Il me fait toujours ce genre de. Il aime bien partir dans le délire. Donc à chaque fois, j'ai ou un prêtre exorciste ou un fanatique religieux. Ouais, non.
Et
j'ai un spécialiste de ces rôles-là.
Comment il gère son bad side? Parce qu'il y a quand même peu de religions qui laissent une place. Mis à part le luciférianisme, le satanisme, qui laisse une place au fait de.
Ouais, comment il justifie ses actes quand tu.
Moi, je pense par exemple, tu sais, au prêtre dans The Doberman, qui est assez spécial. Est-ce qu'il a joué comme ça ou est-ce qu'il fait autrement?
Ben, là, par contre, c'est moi qui impose un petit peu quelque chose à travers le background que j'utilise, c'est-à-dire que pour moi, ceux qui veulent pratiquer la sorcellerie, ils sont obligés de péter un câble, quoi. Ils sont obligés de devenir fous. Donc c'est à travers le spectre de la folie, j'ai envie de dire, qu'ils explorent ce côté.
D'accord.
Dark side un petit peu.
D'accord. Donc religion plus dark side égale génération de contes folie.
Voilà.
Il rejoint le paradis des hommes sans tête.
Voilà.
D'accord. Ah c'est vache, ouais c'est bien intéressant, ouais c'est juste pour savoir que la façon de gérer enfin globalement une partie, tu disais que tu faisais des briefings post-partie pour savoir comment ça s'est passé?
Voilà, ouais, pour essayer de tout. Bon, si on finit tard, évidemment, je le fais plus tard, mais
Ouais.
pour au moins avoir un avis, quoi, de leur part, savoir ce qui leur a plu, etc. Parce qu'il y a toujours, je remarque qu'il y a toujours une ou deux scènes qui se dénotent, quoi, chez eux, qui les ont marquées, etc. Et là, je me dis, là, j'ai réussi un truc, quoi. Donc, il faut que pour essayer de reproduire après cet effet-là, dans d'autres
C'est
scènes.
vrai, enfin, moi je le conseille à tous ceux qui nous écoutent, c'est enfin, c'est toujours intéressant parce que t'as le côté ce que t'as réussi, puis t'as le côté aussi, ah non, ce truc-là le refait plus, c'est chiant, enfin,
Voilà, ouais.
voilà. Ou alors on a passé une plombe à chercher dans la baraque alors qu'il n'y avait rien à trouver. La prochaine fois, il vaut mieux qu'on coupe court parce que finalement on
Au
perd
début,
du
par
temps.
exemple, les premières parties, j'avais des gros défauts. J'arrivais pas à équilibrer les parties enquête, si tu veux, et avec les parties action. Où je faisais trop d'enquêtes, où il y avait trop d'action, et à chaque fois, j'avais ce genre de retour, quoi. Ils me disaient non, là, c'était là, on a un peu décroché, etc. Donc là, ça m'a appris qu'il fallait couper, il fallait faire des trucs plus courts.
D'accord, ouais, c'est vachement intéressant.
Ouais, t'as appris ton groupe. C'est vrai que quand on arrive à dépasser la gêne de ce débrief de fin de partie, parce que pour beaucoup, c'est un peu, comment dire, l'occasion d'une douche d'ego. C'est allez-y, arrosez-moi de vos louanges.
Ouais, voilà.
Mais c'est pas ça. Quand on arrive à dépasser ça et se dire non, on veut vraiment avoir une discussion avec ces joueurs pour comprendre ce qu'ils apprécient, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils préfèrent, ce qui ne va pas aussi dans la manière générale de fonctionner, ou au contraire ce qui est
Ouais.
efficace. Quand on arrive à faire ça, c'est vrai que je partage aussi vos avis. C'est vraiment un bénéfique de faire des débriefs en fin de partie.
Ton progrès en tant que gardien, quoi,
Ouais.
monsieur.
Pas forcément des trucs très formalisés, très longs, hein, mais un petit mot.
Bah tu vois, tu
Voilà.
commences en fin de partie, une fois que tu as rangé l'écran, en disant bah, qu'est-ce que vous avez pensé de la séance de ce soir,
Voilà, tout simplement.
qu'est-ce qui vous a plu et tout ça, et c'est vrai que c'est.
Et puis en plus, c'est un avis extérieur, parce que soi-même, quand tu masterises, que tu es le gardien, tu es un peu emporté, quoi, donc tu vois pas tout, quoi.
Ouais.
C'est un autre regard, quoi, c'est
Oui,
intéressant.
complètement.
Et alors, bêtement, je dirais, alors là, je vais rejoindre, parce que le fonds de commerce, c'est TOC. Tes scénars, tes idées et tout ça, tu les as jamais posés sur support numérique? Bon, c'est
Ah
pas
non.
exploitable. Eh merde!
Ouais, difficilement, je dirais.
Non, c'est au
Ça a
fur et à
l'air d'être
mesure et tout
trop
ça.
personnalisé
Ouais,
pour
c'est vrai qu'en
déjà
plus, ouais.
pour être reproductible facilement
Ouais,
avec.
non, c'est ouais, c'est vrai, non,
Mais
t'as raison.
c'est plutôt une appréciation positive hein, du boulot
Ouais,
parce que
tout à fait.
c'est du sur-mesure et ça fait de très très grandes campagnes.
Tu joues tous les combien à peu près?
Bon, tous les, je dirais, une fois par mois, sûr. Après, quand je peux le faire deux fois par mois, je suis content.
D'accord. Et c'est toujours, enfin, alors maintenant on pose la question parce que maintenant que je me suis intéressé au jeu de rôle virtuel, tu joues sur table.
Oui, sur table.
Ah oui, t'es joueur retour, d'accord. Bon, bah c'est super ça. Bah donc on va arrêter là ce module auquel tu as participé, Prince Noir.
Merci pour
On te remercie
l'invitation.
d'être passé parce que, bah dis donc, on a passé 40 minutes vachement intéressantes, je trouve. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Steve, mais.
Ouais, merci de nous avoir réconciliés, enfin en tout cas moi,
Avec Delta
avec Delta Green.
Green.
Avec
Finalement, c'est
plaisir.
ça qui est assez amusant, c'est que autant on a l'impression d'avoir toutes les libertés dans les années 20, autant dès qu'on nous file Delta Green dans les pattes, on a l'impression d'être dans un carcan. Alors que finalement, ce que tu viens de nous prouver, Prince Noir, c'est que Delta Green, c'est juste une époque. Et
Exactement.
finalement, et t'as montré comment on pouvait bien l'exploiter.
Et je sais plus qui c'est qui a dit que en fait les manuels sont juste des outils, quoi, et ils doivent le rester, hein. Tu dois l'adapter à ta sauce. Ça doit pas
Voilà, ouais.
devenir un carcan, hein.
Mais faut quand même, faut se reconnaître qu'il faut quand même, t'as de l'idée quoi derrière, t'as bossé ton affaire et c'est la béquille, elle tombe pas comme ça quoi.
Après, quand tu aimes,
Voilà,
ça
on ne
peut.
compte pas.
Voilà.
Eh bien, sur ce, amis Poulpette et Poulpe, vous vous attendiez pas à ça et nous non plus. Et comme ça, c'est un superbe module de Poulcast que nous arrêtons là. Et je vous dis donc, Fungloui les Poulpettes et les Poulpes.
Bye
Bye.
Voilà, comme ça on a fait un silence, comme ça je peux couper. Ah bah c'est super sympa,
Ah,
Prince
c'est
Noir,
vraiment.
c'est vachement intéressant.
Ah, ben tant mieux si
Mais c'est
ça
ça
te
qui
plaît.
compte, c'est que en réalité les gens ils pourraient venir sur faire les podcasts. En réalité plein de gens ont des choses intéressantes à dire, mais alors peut-être que c'est parce que je fais le con et qu'avec Steve on parle fort, mais je trouve que c'est vachement intéressant. En réalité on pourrait avoir des dizaines et des dizaines de personnes qui se pointent avec leur expérience perso.
C'est pas
Alors
faux.
toi elle est particulière, donc c'est d'autant plus intéressant, et puis c'est sur Delta Green, un sujet dont on parle pas beaucoup. Alors, il est 23h15, est-ce que vous avez des idées de modules qu'on pourrait encore faire ou pas? Le mec est au bout du rouleau, quoi, tu sais, genre, il est 3h du mat, on a nos 20e module. Alors, pourquoi des dés à 20 faces et pas des dés à... Non, mais je pensais à ça, parce que ça a peut-être initié une envie de discuter sur un autre sujet de ton côté, Prince Noir, ou alors toi, Steve. Mais moi je réfléchis à est-ce qu'il pourrait y avoir un module, parce que ça peut être intéressant de se dire est-ce qu'on a d'autres sujets? Ou toi un sujet dont tu aimerais parler et plutôt nous poser des questions, hein, Prince Noir, de son côté, je sais pas. Un sujet ouvert alors autour du pool. Parce qu'on s'était dit, mais alors parler des inspirations et tout, mais c'est vrai que ça se prépare, ça c'est un peu le problème. C'est-à-dire que tu vois, genre les derniers films. Alors je sais que moi je me suis mis à la série, ce que je dis à Steve, American Horror Story, qui est assez excellente d'un point de vue horreur et très flippante.
Je connais pas, c'est quoi?
C'est une série où tu suis une famille américaine, bon, non, j'allais dire standard, non, c'est faux, mais qui vit dans une maison, mais je veux pas vous dévoiler le truc, quoi, mais ça tourne autour de petits épisodes, petits sketchs à chaque fois, et c'est assez gothique. Si vous pouvez voir le générique sur internet, rien que le générique, vous verrez, il y a une espèce de musique un peu Metallico, Rammsteino, bizarroïde, avec une police de caractère toute chelou, et le générique, c'est des morceaux de pellicule qui brûlent à moitié, des bébés, des trucs comme ça, enfin vous savez, des poupées, des trucs un peu
L'ambiance
saccadés,
pas
un
saine,
peu.
quoi.
Voilà exactement ce que j'adore, moi. Moi, ce que j'adorais dans Master of Horror ou des trucs comme ça, quoi, le truc où tu dis, ah, peut-être pas aller jusqu'au bout, là. Parce que.
En fait, Master of Horror, c'est sympa.
Ah,
Parce
c'est
que,
top! Ah ouais,
ouais,
putain, c'est du caviar. Ah ouais.
c'est bien cette série avec chaque fois une mini-histoire.
Exactement. Ah ouais,
Ouais,
non,
non,
ça c'est.
d'accord.
Ah ça c'est. Tu l'as t'en as vu, toi, Prince Noir?
Oui, j'en ai vu un,
C'est
moi.
bon, hein?
Ouais, c'est bon,
Alors
moi.
tous vaut pas, hein, parce que à chaque fois c'est souvent un réal différent, mais ah,
Ouais.
putain, ouais, non, t'as des trucs qui sont vraiment très très bien.
Ok, je verrai.
Je sais plus, il y a eu deux saisons qui sont passées. Non, c'était bien. J'avais essayé Fear Itself, mais c'était moins bien. C'était moins bien foutu. Là, c'est vraiment. Non, il y a des trucs qui sont bien flippants. Ça rappelle un peu les trucs à sketch au Conte de la Crypte
Exactement,
en plus
oui, tout à
gothique,
fait, oui,
quoi.
tout
En
à
plus
fait,
gore, en plus poussé, quoi. Notamment, je me rappelle un qui finit une des saisons. C'est un truc avec fait par.
Spoiler,
Ah ouais,
spoiler.
non, je vais pas te dévoiler, hein, mais c'est un Asiatique qui l'a fait, hein, le réal. Oh putain. Alors, en plus, il y a des trucs que j'aime pas, avec des trucs insérés sous les ongles et tout, là. Et alors, celui-là, je me rappelle, j'ai eu du mal à le finir, mais bon. Comme j'aime bien me faire peur, je vais jusqu'au bout, mais là. Alors, American Horror Story, c'est mieux foutu, et il y a un côté très, très. Un peu folie, qui est très sympa et qui est bien foutu. En plus, il y a un des acteurs qui est assez connu, c'est Dylan McDermott. Qui a fait pas mal de séries. La nana, c'est une rousse un peu incendiaire qui est assez sympa. Et la petite fille aussi. Non, c'est. Au début,
Ah,
j'ai eu
la
du mal, je me
fameuse
suis.
rousse incendiaire.
Voilà, ouais, tu sais, la nana
Yo,
où.
Roger Rabbit.
Mais elle se balade pas. Non, point de vue film en plus, qu'est-ce que j'ai vu? Film d'horreur, j'en ai pas vu tellement dernièrement. Puis j'ai vu des merdes. Hein. Je me suis dépilé quelques bousins, donc j'ai pas. Non, bah de toute façon, si on n'a pas de sujet, c'est pas grave, on va s'arrêter là.
Ah, je
Mais
vais regarder la chambre 1048. Une sombre merde. Je sais pas si vous l'avez vu, mais
Avec
je m'attendais à un truc énorme, mais en fait.
un acteur très connu là, le
1408,
brun.
pardon. 1408. Ouais, connu, mais je savais pas qu'il jouait aussi mal. Alors, vraiment. Le pitch est sympa. Le mec qui va explorer des chambres d'hôtel hantées, ok. Mais le traitement est lamentable.
Ah, c'est vrai, puis ouais, ça fait pas
J'étais
peur.
très,
Ou
très déçu.
pour vous dire ce que j'ai en ce moment à regarder comme film d'horreur, j'ai Careers, j'ai le vieux Die Monster Die, j'ai Let Me In, j'ai Macabre, j'ai La Malédiction d'Arkham, Martyr, The Dunwich Horde de 2009, The Thing de 2011, parce qu'il faut que je me le revoie,
Je l'ai pas vu.
The Ward, The Whisperer in Darkness et Triangle.
Whispering in the Darkness, ça. Moi j'aime bien, mais j'étais bon public. Hein.
Ouais.
C'est un peu spécial, c'est un peu plus dans le trip, pas forcément Migo, mais c'est pas maltraité.
J'ai peur pour toi, hein, parce que en général, les adaptations au
Ah,
cinéma, c'est.
ça tient pas,
Mais
c'est.
les HPL, elles sont vraiment, elles ont cette petite saveur. Moi, je trouve que ça sent pas. Enfin,
Alors, c'est
je
pour
sais
ça que
pas. Vous en avez
Master of
pensé quoi de
Horror,
Cthulhu?
quoi?
Cthulhu, vous en avez pensé quoi?
Du film
Le
Cthulhu?
celui en noir et blanc de HPL.
Ah, il est bien.
Enfin, franchement, moi je trouvais que c'était sympa. Petit
Ah,
budget, mais.
c'est ouais, c'est les mecs là du site Cthulhu Lives et tout
Ouais,
ça, là,
c'est
les
ça.
mecs, ouais.
Ouais. Mais Whisperer, c'est la même chose, hein. C'est le même groupe. Hein.
Ah oui, c'est vrai,
C'est
très
celui en noir et
juste.
blanc. Ouais. Bon,
Ouais, je m'en rappelle.
il y a certaines phases d'action, mais là, tu trouves tout de suite les limites du film, on va dire, et tu te prends la tête. Mais sinon, Let Me In, si on te spoile pas,
On m'a jamais spoilé pour l'instant.
Ouais. Ouais, ça peut être intéressant, surtout que la bande originale est saisissante.
C'est vrai?
Ah ouais,
ah si, celui que j'ai vu qui était bien.
Saisissante cette BO, elle est incroyable.
Attends, celui que j'ai vu qui était bien, putain, c'était un bon film d'horreur que j'ai vu récemment avec des teenagers, mais c'est bien barré. Qui
vont Loved en... Ones, The Loved Ones.
Non, c'est la maison, tu sais, sous forme de Rubik's Cube, l'affiche.
Cube? Ultra Cube ou je sais plus quoi?
Non, c'est une maison.
Oh. Mais...
La cabine, ouais. Voilà. C'était bon ça.
Ah ouais, j'ai pas vu, mais la BO est pas mal.
Tu l'as vu, Pince Noir?
Oui, j'ai aimé moi le côté humour assumé quoi. Ça, c'était plaisant.
C'est bien foutu, je trouve. C'est un film sympa, c'est un film horreur, voilà, horreur marrant, mais bien fait quoi.
Oui.
Ils sont un peu fait chier les mecs. Oui. Non, c'est au début je me demandais, tu te dis machin.
Mais j'ose pas imaginer s'ils avaient voulu se prendre au sérieux quoi, ce que ce soit.
Ouais, ça aurait été ouais.
D'ailleurs, vous avez vu Resident Evil, le 2013?
Alors non.
Celui où il se coupe un bras en mousse, là.
oui, enfin non. Ouais. Ça, c'est le vieux, tu sais. Et dans le vieux, il y avait pas mal d'humour et de trucs.
Non, le nouveau, le remake, hein, le bras en mousse. Hein. Elle coupe le bras, il n'y a rien.
En tout cas, dans le remake, j'ai trouvé... Enfin, la partie humour était quasiment absente et du coup...
Ouais,
ça c'est faisait terrible.
C'est clair. Ouais.
C'était un autre film, bizarre.
C'est con parce que les films d'horreur c'est pas facile, hein. C'est pas un truc.
Moi c'est bizarre, le seul que je trouve, je vais dire le moins pire, hein, pour pas être trop méchant, c'est L'Antre de la Folie quoi, le Carpenter.
Ouais.
C'est vraiment le seul qui.
L'Antre de la Folie c'est bon.
Ouais, c'est vrai.
Ah puis tu vois pas vraiment de monstres, c'est tout chelou. Puis Sam Neill il joue vraiment bien. Enfin t'as toujours les principes à la Carpenter ou tout ça, où le mec essaie de fuir mais il n'y arrive pas et t'as l'impression qu'il boucle, qu'il revient et puis tout le monde a l'air chelou et puis c'est pas le plus chelou qui est le plus chelou, enfin et puis t'as une grosse porte et puis apparemment c'est horrible derrière mais non il l'ouvrira pas parce que on veut pas que tu vois ce qu'il y a derrière, non c'est ouais, enfin ça fait partie des bons trucs quoi. Bon ben messieurs, si on n'a pas d'autres sujets on va arrêter là, de toute façon on a bien tapé la causette, c'est cool. Bon, je vais peut-être pas faire le découpage ce soir. Bah écoute, Prince Noir, si t'as d'autres idées ou d'autres envies de revenir, alors le problème c'est que là on a un peu tapé dans ton sujet de prédilection, mais si jamais t'as d'autres sujets desquels tu veux parler quand on programme.
Enfin, j'ai l'astuce de mon coin.
D'astuce et d'espièglerie, comme dirait Grandi. Mais ouais, tu faut vraiment pas hésiter parce que tu vois, enfin là tu vois les dessous du podcast avec cette préparation.
Ah, c'est comme ça,
non, souvent on prépare. Comme ça. Souvent on prépare, mais là c'est vrai que c'était. Puis ça peut être très sympa quand c'est improvisé comme ça. Bon ben messieurs, donc je vais pas les faire ce soir parce que ça me fait chier. Le découpage, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Il faut que je coupe les morceaux du début et de la fin, mais bon. Non mais c'est bien, ça nous fait deux podcasts bien différents. Et puis, je pense sur deux sujets qui seront intéressants. Même si je plaisante, je pense que le premier sujet sur les règles, ça peut faire réfléchir les gens ou les amener, c'est ce qu'on se disait avec Steve, hein, Prince Noir, c'est que ça peut les amener à réagir dans les forums ou à se poser des questions sur, c'est vrai quoi, le jet talk, à quoi il sert, quand est-ce qu'il faut... Ce que tu nous disais aussi quoi, c'est que par exemple toi tu dis que tu fais des jets uniquement dans la situation de stress, donc
Situation critique, etc. Trop de jets de dés finissent par tuer.
Et alors, ce qu'on a essayé de traiter dans le TVA, hein, mais ce qu'on a essayé de traiter dans le podcast, c'est de se dire finalement. C'est bien de faire des jets que en situation de stress, mais si t'as pas beaucoup de situations de stress dans un début de campagne, comment justifier que les joueurs aient mis des points dans une compétence? C'est ça le problème, c'est de se dire, voilà, j'ai réparti, mais finalement, si j'avais su, j'aurais pas venu. Si j'avais su, j'aurais mis moins de points, parce que finalement, comme c'est des réussites automatiques, on s'en sert jamais.
C'est intéressant que tu parles de ça, parce que bon, là on a fini, mais moi, dans mon système justement que j'ai fait là, que j'ai bidouillé, pour donner l'intérêt aux joueurs de mettre des points justement dans leurs compétences, j'utilise la règle de l'investissement, parce que j'aime pas utiliser le mot roleplay, parce que le roleplay est souvent confondu avec la capacité de baratiner son MJ. quand le joueur s'investit, c'est-à-dire qu'il décrit oralement, que je vois dans son regard, dans ses yeux, il me décrit l'action, il dit je saute sur lui, je fais ça, etc. Quand je vois qu'il est investi, et s'il a le niveau, ce que j'appelle le niveau expert, c'est-à-dire que c'est un maître, il maîtrise absolument, et qu'il n'y a pas un malus à faire sur la difficulté, c'est un jet normal, je lui accorde la réussite automatique. Donc en cela, les joueurs, ils ont l'intérêt de mettre des points, tu vois, ils sont motivés à mettre des points dans les caracs, ils savent que s'ils sont très bons, juste en s'investissant, en décrivant l'action, ils vont réussir automatiquement.
Voilà. Ah ouais, d'accord, ils savent que... Alors c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est un peu amené avec les règles V6, avec les différents niveaux pour les compétences, de se dire moi c'est ce qu'on m'avait, c'est ce que j'ai entendu dans un autre podcast, c'est que de se dire voilà, un chirurgien, s'il a 90% en chirurgie, si tu prends les règles standards, ça veut dire qu'il rate une opération d'appendicite sur 10. C'est hyper grave.
La question moi que je m'étais posée, c'est je m'étais dit, parce que justement je demandais à mes joueurs qui étaient haineux envers les dés, j'ai dit mais pourquoi vous haïssez tant les dés, qu'est-ce qui vous pose problème? Et la plupart, ils me répondaient tous, enfin majoritairement, ils me disaient bah, écoute, quand tu fais un super roleplay, à leurs yeux évidemment, quand tu fais un super roleplay que tu décris, etc., et que tu jettes le dé et que tu fais un fumble ou un échec critique, et ça te tue l'action juste pour un coup de malchance, c'est un peu du gâchis, quoi.
Et c'est pas drôle, c'est même pas drôle voilà. D'avoir un fumble quand tu t'es lâché.
Exactement. Voilà. Donc là, j'ai poussé la réflexion un peu plus loin. Je me suis dit, est-ce que c'est injuste de rater l'action sur une maladresse pour tout le monde? Je me suis dit, pour les maîtres, oui, mais pour le néophyte, pourquoi pas?
Oui, parce qu'ils font vraiment un truc dans lequel ils gèrent pas les retombées. Et finalement, ils ont poussé le bouchon un peu loin. Donc le bouchon, quand tu le pousses un peu loin, peut y avoir la. Le backdraft, tu peux te prendre le truc dans la tête et puis voilà, t'as tenté le coup. Alors c'est vrai qu'un mec qui est super fort, bah voilà, quand il tente le coup, ça réussit quoi, parce qu'il est fort. Ouais, non, c'est vrai que c'est. Puis c'est, ça va avec ton système de jeu, c'est-à-dire que ce sont des gens meilleurs que la normale. Alors que c'est vrai qu'à l'appel au Toulouse classique, quand tu répartis tes points, à la fin, t'es pas forcément meilleur que la normale quoi.
Juste pour en revenir sur l'histoire de l'échec critique après super roleplay. Je crois que des fois aussi, il y a un effort d'imagination à avoir, enfin pas d'imagination, mais disons de regard plus global. C'est une observation que je me suis faite en jouant à une table avec un gars. Lorsque ce type de situation se produisait, c'est-à-dire tu faisais un super roleplay, tu faisais un échec critique derrière, le gars faisait comme si c'était rien passé, comme si t'avais super bien joué ton action. Le problème, c'est que il te faisait, si tu veux, il te ressortait l'échec critique un peu plus tard d'une autre manière. Par exemple, si tu parlais à une nana et tu faisais un super roleplay pour la séduire.
Il te restait un bout de cervelle sur l'épaule, quoi.
Non, mais disons, la nana était charmée, alors, en échec critique, soit bah, finalement la nana était une conspiratrice et souhaitait de toute manière que tu la charmes pour te rouler dans la farine, soit tu te rendais compte un peu plus tard que la nana était juste polie avec toi, mais qu'elle avait un goût prononcé pour les autres femmes.
Ah, elle ne faisait pas sur le coup.
Et du coup, ton roleplay, ton joueur ne perdait pas la face au moment de son succès critique, mais la réussite n'était pas celle qu'on attendait, tu vois, enfin...
Ouais.
Bon, je suis d'accord, c'est une galipette.
Ouais, mais ça, c'est pas con, parce qu'en plus, ça demande une gymnastique, ouais. Bah oui, oui. Oui, puis surtout, t'as l'air con devant les autres joueurs, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Genre, fumble.
C'est incroyable, t'as bien raison, tu fais un super roleplay, et derrière, t'as un échec critique. Mais ce qu'il y a, c'est que, disons, la réticence, l'échec n'est pas forcément dans les failles du personnage, mais peut-être dans la force de l'adversité. Et à ce moment-là, ça devient acceptable. Si maintenant tu dis, par exemple, ouais, j'essaye de rentrer dans la maison, je défonce la porte, et tu dis, bah non, fais-moi un test de force, tu fais un échec critique, t'arrives pas à défoncer la porte d'une petite chaumière en bois. Ouais. Mais tu peux aussi te rendre compte que en fait la chaumière est un bloc de pierre gigantesque qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une chaumière. Et là, les gens comprennent, ah mais oui, voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à défoncer
la porte. Ou alors tu brises tout à l'intérieur et tu... Ouais. Le super indice qu'il y avait derrière la porte, tu viens de le niquer ou t'as foutu le feu en tout ouvrant.
T'as éclaté la tête du mec qui donne le mini.
Voilà, ouais. Mais là, je devais vous dire, ah, pardon. Hop, et hop, il meurt. Et ça, c'est
qu'on devrait pas avoir à faire, c'est vrai.
Mais c'est que c'est des difficultés, c'est par exemple comme, alors autant, toc, j'ai du mal encore à le faire, autant pour tous les gens en psychologie, ou alors pour les gens en bluff ou en embobinage, je fais plus léger moi. Le mec, il faut qu'il me parle. Ouais. S'il me dit juste, alors c'est vrai que c'est celui où on le fait le plus facilement, parce qu'on dit j'essaie d'embobiner. Alors c'est un peu délicat parce que ça veut dire qu'un joueur qui n'est pas, mais ça veut dire que le problème c'est qu'un joueur qui n'est pas baratineur ne pourra jamais jouer un personnage qui est baratineur.
Oui, ne serait-ce que pour les joueurs qui sont un peu timides ou qui ont des difficultés, il faut quand même toujours cette opportunité de jouer.
Bon, en général, ce que je fais, moi, c'est je rajoute un bonus, voire un gros bonus, du type le mec qui fait un super roleplay, je dis ok, t'as un bonus de +20.
Ouais.
Ou bien le mec il fait un ultra roleplay de l'enfer qui déchire. Je lui dis, ok, si tu me fais un échec critique, enfin, si tu me fais pas un échec critique là, maintenant, tu réussis automatiquement. Tu vois,
Ouais.
vraiment, il y a une chance sur 100 pour que son baratin ne prenne pas. Et dans ce cas-là, quand tu fais l'échec critique, c'est tellement, enfin, les gens ont tellement perçu que tu avais juste une chance sur 100 de te planter, que tu peux encore retomber sur tes pattes à coup de la nana que tu séduis était lesbienne
Ouais,
ou
voilà. Ah, mais vous plaisez beaucoup, mais je ne mange pas de ce pain-là. Ah, merde, merde! Bon, bah, c'est cool, messieurs. Bah, vous faites chier parce que je vais être obligé de découper ce morceau dont on vient de parler pour le recoller derrière.
tu l'avais enregistré.
Ah, bah oui, je l'avais enregistré. Je
Elle
l'ai pas
peut
coupé comme un
enregistrer.
truc con. Faut que j'arrête d'enregistrer. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, nous allons terminer ce dernier podcast parce que je sais pas trop comment je vais faire pour recoller tous ces morceaux. Ça va être le bordel. C'est genre, au revoir. Ah oui, au fait, machin. Et au revoir. Ça fait un peu Columbo notre affaire, quoi. Et au fait, j'ai oublié de
Nous
vous dire,
sommes
ma femme de la
vendredi, lundi.
Exactement. Bon, bah, écoute, Prince Noir, je te remercie. Steve, toujours merci. Et puis,
Merci. Merci.
bah, faut qu'on essaie de se relancer. Ouais, faut qu'on s'en fasse un autre plus rapidement parce que c'est vrai que là, les deux derniers dataient un petit peu.
On va
Donc,
modifier les trucs avant de partir.
de toute façon, vous, auditeurs et auditrices acharnés, qui avez été absolument fascinés par nos pérégrinations, n'hésitez pas aussi à faire comme Prince Noir et à venir participer parce que vous avez forcément des expériences intéressantes. Et puis de toute façon, avec Steve, on a toujours des trucs à dire parce que même sur des sujets les pires, on a toujours un truc à dire. Sur ce, je vous souhaite à tous les deux et à vous tous et toutes, les milliers, les millions de talkers qui écoutaient les podcasts, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis fin de l'ouïe!